Il est 12h30, vous écoutez France Culture, l'heure des informations avec Ludovic Piétenu. Bonjour Ludovic.
Bonjour Caroline et bonjour à tous. Régler la crise des migrants en externalisant, en reportant tout le problème sur la Turquie, on serait tenté de résumer ce midi ainsi le sommet de la nuit dernière à Bruxelles. Entre Européens et Turcs, les propositions restent encore à affiner d'ici la fin de la semaine prochaine. Nous appelons dans un instant Pierre Benazé à Bruxelles pour décortiquer et analyser tout cela. En France, le gouvernement poursuit son travail de concertation sur les contours de la future loi travail. On est à la veille d'une journée de mobilisation de très nombreuses organisations de jeunesse. Nous entendons dans ce journal la ministre Myriam El Khomri défendre son projet et s'adresser aux jeunes. Ou comment éviter le naufrage du CPE, nous dira Annabelle Grelier. Dans ce journal, nous parlerons aussi de déchéance de nationalité, bientôt en débat au Sénat. Et nous ferons réagir notre invité, l'ambassadeur d'Israël en France, son excellence Aliza Bin Noun, à l'actualité bien sûr au Proche-Orient, mais aussi à cette phrase du Premier ministre hier soir lors du traditionnel dîner du CRIF. Manuel Valls a qualifié de synonyme antisémitisme et antisionisme. Après ce journal, dans la deuxième partie de la Grande Table, Caroline.
Nous mettrons le culturalisme en question à partir de ce qui s'est dégagé de la récente controverse autour des propos de l'écrivain et journaliste algérien Kamel Daoud sur ce qui s'est passé à Cologne le 31 décembre dernier. Nous le ferons en compagnie de l'anthropologue Jean-Loup Amsel et Gérald Brunner, le sociologue, lui donnera la réplique.
À tout à l'heure. Les discussions se sont prolongées tard. Hier soir et dans la nuit, nous apprenions ce qui ressortait de ces échanges entre les 28 États membres de l'Union européenne sur la crise des migrants avec son partenaire turc. Ce ne sont pour l'heure encore que des propositions. Rendons-nous à Bruxelles. Bonjour Pierre Benazé.
Bonjour.
L'accord en bonne et due forme n'interviendra que lors d'un nouveau sommet en fin de semaine prochaine. De ce qu'on en sait, Pierre, pour l'heure, ce sont quand même des propositions, dirons-nous, novatrices, voire baroques.
Oui, mais si on en croit le Premier ministre turc Ahmet Davutoğlu, elles sont tout simplement audacieuses. Le principe en est en effet assez particulier parce que l'idée c'est de reprendre les migrants. Ceci enlèverait une sacrée épine du pied à la Grèce parce que le principe c'est qu'à partir d'une date qui reste encore à fixer, tous les migrants clandestins qui franchissent la mer Égée pourraient être ramenés en Turquie sans autre forme de procès. C'est évidemment ce que souhaitaient les Européens qui veulent absolument, comme vous le disiez, sous-traiter à la Turquie la gestion du ralentissement du flux des migrants. Mais la partie qui a surpris hier ceux qui n'étaient pas dans le secret de cette proposition concoctée de concert avec l'Allemagne et les Pays-Bas, c'est le 1 pour 1 dans le nombre de migrants qu'elle reprendrait sur son territoire. La Turquie comptabiliserait tous ceux qui viennent de Syrie et entrerait donc dans la catégorie des réfugiés. Dans la foulée, les Européens s'engageraient à accueillir sur leur territoire le même nombre de réfugiés syriens. Pas ceux qui auraient tenté de passer en Grèce, non, ceux-là se retrouveraient en bas de la liste d'attente en quelque sorte. Les Européens reprendraient d'abord ceux qui font les choses dans les règles et attendent bien sagement en Turquie la réponse à leur demande d'asile.
Ce sont quand même, Pierre, des propositions, des contreparties très importantes en faveur de la Turquie.
Oui, alors pour ce qui est de reprendre les réfugiés syriens en Europe, c'est pas entièrement nouveau parce que les Européens ont prévu dès l'été dernier de lancer ce qu'ils appellent une politique de réinstallation. Elle va de pair avec la politique de relocalisation qui concerne ceux qui sont déjà arrivés en Europe, mais celle-ci concernait ceux qui ont droit au statut de réfugié et qui sont dans les pays voisins. En revanche, effectivement, les contreparties sont nombreuses puisque tout d'abord, les Européens seront censés payer pour le rapatriement des migrants vers la Turquie, alors même que c'est elle qui n'a pas réussi à les empêcher de partir. Et sur le plan financier, Ahmet Davutoğlu a réclamé le double des 3 milliards d'euros déjà promis par les Européens en faveur des réfugiés qui sont dans des camps en Turquie, mais surtout à plus long terme, deux choses. D'abord, la relance du processus d'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne. Ça, c'est pas gagné encore. Et puis, dans les mois qui viennent, pour juin, la libéralisation des visas, c'est-à-dire la possibilité pour les Turcs d'entrer pour des courts séjours sans visa pour 3 mois dans l'Union Européenne. S'ils répondent aux critères, il y en a 72 qui vont de l'état de droit à la régularisation des visas pour les autres ressortissants qui viennent en Turquie. C'est très compliqué, mais ça semble en passe de fonctionner si ce plan est avalisé.
Une facilité de circulation pour les Turcs. Merci beaucoup Pierre Benazé en direct de Bruxelles. J'ajoute deux réactions ce midi chez nos responsables politiques. En France, à droite, Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat. C'est un marché de dupes, dit-il. Faut-il que l'Europe soit si faible pour s'en remettre à un partenaire qui soit si peu fiable que la Turquie ? À gauche, Aurélie Filippetti, ancienne ministre de la Culture, estime estime pour sa part déplorable qu'on dise aujourd'hui. Bah finalement, on va exfiltrer cette question des migrants vers la Turquie, qui est tout sauf un pays démocratique ou respectueux des droits de l'homme et des droits de la presse. J'ajoute à ce sujet qu'après avoir pris le contrôle du principal quotidien turc critique à l'égard du pouvoir du président Erdogan, le journal Zaman, c'est au tour à présent d'une agence de presse turque de passer sous le contrôle des autorités. J'ajoute enfin la rencontre en ce moment même du premier ministre turc Davutoglu et son homologue grec Tsipras. Les deux hommes poursuivent une partie des échanges de la veille à Bruxelles sur cette crise migratoire. Une réaction supplémentaire à présent dans ce journal, Véronique Rebérotte a sollicité la présidente d'une association qui travaille sur la question des migrants, la CIMAD. Elle s'appelle Geneviève Jacques, au micro donc de Véronique Rebérotte.
La première réaction, c'est un sentiment de honte devant une telle hypocrisie, parce que sous couvert de bonnes intentions, qui est de faire diminuer les morts en mer Égée, de lutter contre le business des passeurs, l'Europe est en train de se défiler de ses responsabilités avec ses accords d'externalisation avec la Turquie. On vous donne 3 milliards et vous vous occupez de notre problème. Et y compris en proposant des mesures aussi invraisemblables que de renvoyer, de déporter des demandeurs d'asile, déjà demandeurs d'asile en Europe, de les redéporter en Turquie et ensuite de laisser la Turquie, quoi, qui, comment, faire le tri entre des vrais réfugiés, entre guillemets, et puis tous les autres qui seraient renvoyés. Comment cela peut-il se faire et que va-t-il se passer en Turquie? Il y a de quoi vraiment avoir les plus grandes craintes et surtout cette espèce de d'écœurement devant cet accord qui, semble-t-il, est la concrétisation d'une stratégie de l'inhospitalité, de la fermeture de l'Europe. C'est vraiment le renoncement à des valeurs fondamentales, dont celle du droit d'asile, qui était quand même un des piliers. La Convention de Genève a été signée en Europe, et on est vraiment dans une période de régression qui est épouvantable.
Geneviève Jacques, la présidente de la CIMAD, pour refermer ce dossier, une dernière réaction qui nous est parvenue il y a quelques minutes, elle est de taille, elle vient du haut-commissaire aux réfugiés de l'ONU. L'homme se dit profondément préoccupé par ce projet d'accord Union européenne et Turquie qui ne garantirait pas la protection des réfugiés en vertu du droit international.
En France, ce soir et demain, des difficultés sont à prévoir dans les transports.
C'est en effet dès ce soir, Caroline, 22h, que la circulation des RER en Ile-de-France commencera à être perturbée. Demain, la SNCF prévoit seulement un tiers des trains en région parisienne sur les lignes régionales et la plupart des lignes TGV en France. Le métro parisien devrait lui rouler normalement. Les syndicats appellent à la grève pour les salaires, l'emploi, les conditions de travail dans cette journée d'action contre la future loi travail, où le gouvernement poursuit ses consultations patient-travail. Travail de concertation, de conviction. Hier soir, la ministre Myriam El Khomri a eu la lourde tâche d'aller défendre son texte devant le bureau national du Parti Socialiste. À l'issue, Martine Aubry, auteur avec d'autres d'une récente tribune au Vitriol, a réclamé beaucoup de modifications de ce projet qu'elle juge extrêmement dangereux. Et ce matin, sur RTL, la ministre du Travail a défendu son texte.
Moi, je suis très attentive, par exemple, au mouvement « On vaut mieux que cela ». Parce qu'il dit parfois le malaise dans le monde du travail, il dit cette hyperflexibilité dont souffrent notamment les plus précaires. Et l'objectif de ce projet de loi, c'est justement d'améliorer le recrutement en CDI. Il n'y a pas que moi qui le dis. La semaine dernière, 32 économistes, dont certains de renom comme Jean Tirole, ont montré que cette loi était aussi là pour les plus précaires. Vous savez, on fait un parallèle entre le CPE et ma loi. Ce n'est absolument pas la même chose.
Oui, Monsieur Mailly dit Villepin aussi, il croyait que ça allait tenir.
Le CPE, moi aussi, j'avais manifesté. Il s'agissait
vous étiez dans la rue contre le CPE
et d'un salaire au rabais en direction des jeunes. Aujourd'hui, dans ma loi, il y a par exemple le droit à la nouvelle chance pour les jeunes à travers le compte personnel d'activité. C'est-à-dire que tout jeune qui n'a pas eu accès à un premier niveau de qualification pourra avoir accès tout au long de sa vie à une formation. Voilà ce que porte ma loi.
Le gouvernement parle à la jeunesse, on vient de l'entendre, et tente d'éviter le naufrage du CPE, offensive de communication. Ce matin, Emmanuel Macron sur France Inter, une autre ministre s'exprimait ce matin chez nos confrères de France Info. Najat Vallaud-Belkacem estime que les organisations étudiantes et lycéennes sont, je la cite, tout à fait légitimes à vouloir prendre part au débat. Je ne considère pas, poursuit la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, qu'il y aurait des sujets pour les jeunes et des sujets pour les grandes personnes. personnes. Les jeunes, ce sont les futurs salariés, Annabelle Grelier. Et cette loi, précisément, répond à la question de l'entrée dans le monde du travail.
Il y a quand même un travers en France de pouvoir imaginer que les jeunes ne sont pas légitimes dans les grands débats de société. Ils seraient tous manipulés, instrumentalisés, mais bon, heureusement qu'ils s'y intéressent. C'est même à souhaiter, car sans leur consentement, c'est tout notre modèle social qui tomberait par terre, à commencer par notre système de retraite. Les jeunes ont plus que raison de s'intéresser à l'avant-projet de loi El Khomri, de se mêler du débat, d'autant qu'on ne cesse de leur dire que c'est bien pour eux. Ils sont les premières victimes de la précarité et des CDD. Ils sont donc les outsiders, quand les CDI sont les insiders. Faciliter le licenciement leur permettrait alors d'accéder au CDI. Mais que vaut un CDI quand on peut le perdre aussi vite qu'on l'a gagné? Et puis le salarié de demain, qu'ils sont donc, devrait accepter plus de flexibilité dans le temps de travail, dans les rémunérations. Emmanuel Macron a défendu évidemment le projet de loi auprès des jeunes. Le ministre de l'économie est d'ailleurs à l'origine de plusieurs mesures contenues dans le texte, celle notamment sur les indemnités prud'homales, la plus contestée. Il pense, j'imagine, représenter les jeunes en disant « J'entends les jeunes qui ne veulent pas d'une société précaire, mais cette société, elle est là, elle existe depuis que je suis jeune. Elle est injuste et inefficace, affirme-t-il. » Et de revendiquer des droits à la formation et à la sécurité que donnerait le texte, le fameux CPA, qui pour l'heure dans le texte regroupe juste des droits déjà existants. Mais qu'y a-t-il vraiment de nouveau pour eux dans ce texte? Les jeunes sont en droit de se demander si faire baisser le taux de chômage ne vaut pas autant que la qualité des emplois créés et si ces emplois pourront leur garantir un niveau de vie suffisant. Partout où ces réformes du marché du travail ont été mises en place en Europe et particulièrement dans l'Europe du Sud sous la pression de la crise, mais aussi en Allemagne et en Angleterre, on ne voit apparaître que de la précarité et des nouveaux travailleurs pauvres, particulièrement chez les jeunes et les salariés seniors. Alors donc, les jeunes, oui, sont en droit de bousculer les lignes. Il y a quand même un pas entre jouer les enfants gâtés et se voir refiler un cadeau d'occasion.
Annabelle Grelier, une autre lourde tâche pour le Premier ministre dont tout l'entourage dément des rumeurs de démission. Il était ce matin devant la commission des lois au Sénat, commission qui rendra son rapport demain sur l'inscription de l'état d'urgence et de la déchéance de nationalité dans la Constitution. Ce matin, Manuel Valls est donc allé devant les sénateurs et vous avez suivi cet échange, Stéphane Robert, l'occasion de saisir les positions de chacun des groupes politiques. Ça s'annonce compliqué.
Oui, ça s'annonce compliqué pour Manuel Valls qui a appelé les sénateurs à la responsabilité ce matin. Ça s'annonce compliqué avec la droite, déjà majoritaire au Sénat. Il n'y a qu'un seul sénateur de droite qui a pris la parole. Il s'agit d'un centriste, l'ancien garde des Sceaux, Michel Mercier. Mais il a résumé ce qu'ont déjà dit le président du Sénat, Gérard Larcher, et le président du groupe Les Républicains, Bruno Retailleau, à savoir qu'il n'est pas question de favoriser la création d'apatrides, contrairement à ce que prévoit ce projet de loi constitutionnelle, puisqu'il doit instaurer la déchéance de la nationalité pour tous, même ceux qui n'en ont qu'une seule. Il faut donc s'attendre à ce que les sénateurs de droite réintroduisent cette notion de déchéance de la nationalité pour les seuls binationaux. Mais ce qu'on a pu voir également ce matin, c'est qu'il n'y a pas qu'à droite que ça va coincer, à gauche également. Tour à tour, la communiste Éliane Assassi, le socialiste Jean-Yves Lecomte et le radical de gauche Jacques Mézard ont pris la parole pour dire tout le mal qu'ils pensent de l'inscription de cette déchéance de la nationalité dans la Constitution. Ça n'a rien d'une mesure de gauche, a dit la communiste. Et puis pourquoi l'inscrire dans la Constitution, puisque c'est déjà prévu par la loi? Enfin, a fait valoir le socialiste Jean-Yves Lecomte, ce sera contre-productif, puisqu'on enverra le message aux pays avec lesquels il serait bon de renforcer la coopération face au terrorisme, qu'ils sont la poubelle de la France, que ces pays, Algérie, Maroc, Tunisie notamment, peuvent bien accueillir les terroristes dont on ne veut pas en tant que citoyen français. Bref, vous le voyez, il apparaît d'ores et déjà fort peu probable que le Sénat valide le texte déjà voté par leurs collègues députés à l'Assemblée. Tout ça paraît donc, à l'heure où nous parlons, très très mal engagé.
Le Conseil constitutionnel a un nouveau président, Ludovic.
Il s'appelle Laurent Fabius. Le nouveau président vient de quitter ses fonctions de ministre des Affaires étrangères. Il a prêté serment dans la matinée à l'Élysée. Il vient d'arriver dans ses nouveaux bureaux rue de Montpensier il y a quelques minutes. L'un de nos reporters, Frédéric Seyss, était là. Et la présence d'un ancien membre du gouvernement pose la question de l'impartialité. Voici la réponse de Laurent Fabius.
J'ai été désigné par le président de la République, mais vous avez peut-être vu que j'ai été entendu par les deux commissions des lois de l'Assemblée et du Sénat qui m'ont désigné par 38 voix contre une. Donc, vous voyez, l'impartialité, la sagesse, c'est dans notre rôle. Et donc, je vais me mettre au travail sans tarder, en faisant ce que je dois faire, c'est-à-dire d'être un sage actif.
Instantané sonore, Laurent Fabius au micro de Frédéric Seyss.
France Culture, 12h45, suite du journal Ludovic Piétenu.
Je salue à présent, Caroline, l'invité de ce journal, son Excellence Aliza Bin Noun. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes ambassadeur d'Israël en France, très expérimenté, diplomate de carrière depuis 30 ans. Première fois qu'Israël nomme une femme au poste d'ambassadeur en France. Nadine Epstein à mes côtés pour mener cette interview. Bonjour Nadine.
Bonjour.
Parlons avec vous du processus de paix au Proche-Orient, des initiatives diplomatiques qui reprennent, qui se multiplient avec l'Américain Joe Biden en visite ce matin dans la région.
Et concernant les relations bilatérales USA-Israël, le vice-président Joe Biden et le Premier ministre Netanyahou discuteront de l'aide militaire américaine, 30 milliards de dollars sur 10 ans, définie dans l'accord signé en 2007, une somme qui devrait être vue à la hausse en raison de la situation générale du Moyen-Orient et en particulier après l'accord nucléaire passé avec l'Iran. Israël devrait obtenir une contribution américaine supplémentaire, notamment pour soutenir ses programmes de systèmes antimissiles. C'est du moins ce que laissent entendre les médias israéliens aujourd'hui. L'autre grand dossier, celui qui fâche, l'agrandissement des implantations juives en territoire palestinien et les négociations de paix entre Mahmoud Abbas et Benjamin Netanyahou. Selon le Wall Street Journal, le président américain voudrait marquer la fin de son mandat par une reprise des pourparlers entre Palestiniens et Israéliens. Barack Obama envisage de présenter à l'ONU une résolution cadre pour déterminer les concessions que chaque partie doit faire. Les grandes lignes sont connues depuis des lustres. Le gel des nouvelles constructions dans les colonies, la reconnaissance de Jérusalem, est capitale de la Palestine, le renoncement au retour des réfugiés palestiniens en Israël, des frontières selon le tracé de 1967 avec des échanges de territoires. Voilà en gros les propositions américaines. La France, qui soutient à peu près les mêmes positions, essaie elle aussi depuis un an de relancer ses discussions de paix, mais sa proposition d'organiser une conférence internationale reste toujours à l'état de projet.
Alors forcément, première question, Aliza Bin Noun, dites-nous ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche cette paix au Proche-Orient ?
D'abord, merci pour l'invitation. Et aujourd'hui, c'est le jour des femmes, le jour international des femmes. Alors je voudrais féliciter les femmes, c'est très important.
Et... souvent artisans de la paix.
Souvent artisans de la paix, oui.
Et mais alors pas pourquoi, pourquoi Israël ne semble pas vouloir de ce processus de paix ?
Israël était toujours intéressé à le processus de paix. Israël a montré auparavant qu'elle a fait et la paix avec l'Égypte il y a 40 ans, aussi que la paix avec la Jordanie. Et même pendant le processus d'Oslo, il y avait des négociations avec les Palestiniens. Même les derniers mois, après que les événements sur le mont du Temple et en Israël ont commencé, Netanyahou a tendu la main à Mahmoud Abbas. Il est l'invité autour de la table des négociations, mais Mahmoud Abbas a refusé. Israël était toujours intéressé à la paix. La société israélienne, même aujourd'hui, après tous les attentats terroristes qui arrivent en Israël, même aujourd'hui, il y avait deux attentats, est encore intéressée à la paix. Mais pour faire la paix, pour parvenir à la paix, il faut discuter, il faut avoir une négociation directe.
Il y a eu une attaque, hein, je le précise parce que vous l'évoquiez à l'instant, une nouvelle attaque au couteau, effectivement, ce matin, porte de Damas à Jérusalem-Est. C'est une femme qui s'est lancée contre des policiers et elle a été abattue en retour. Nadine Epstein.
Et justement, puisque le processus de paix, même les discussions n'avancent pas, alors que les relations quand même sécuritaires entre vos deux pays marchent plutôt bien, et la seule réponse qui...
Quel pays ?
Entre Israël et les Palestiniens.
L'autorité palestinienne, oui.
Non ?
Oui, oui.
Est-ce que finalement, s'il n'y a pas des processus de paix, vous n'avez que finalement une succession de cycles de violence comme aujourd'hui l'intifada des couteaux, hier c'était l'intifada Al-Quds. Est-ce qu'il y a d'autres perspectives ?
D'abord, ce que nous voyons depuis quelques mois, ce n'est pas une intifada, parce que intifada en arabe, c'est une révolte populaire. Et ici, nous voyons des gens, des jeunes gens, même si la femme d'aujourd'hui avait 50 ans, mais en général, il s'agit de jeunes gens.
Plutôt jeunes.
Oui, ils sont plutôt jeunes.
Souvent des femmes d'ailleurs.
Souvent des femmes, mais aussi des hommes qui prennent les couteaux de leur cuisine, ils vont dans les rues et ils tuent les Israéliens. Ça, nous voyons déjà depuis, comme je viens de dire, depuis le mois de septembre. Et malheureusement, c'est à la suite, c'est un résultat d'une incitation à la haine qui était orchestrée par l'autorité palestinienne, par Mahmoud Abbas même, il y a quelques mois, et aussi le Hamas, qui est un gouvernement, une autorité dans la bande de Gaza des terroristes. Et dans les réseaux sociaux, les jeunes qui suivent et les réseaux sociaux, ils sont incités à la haine. Maintenant, bien sûr que ce n'est pas une perspective, mais d'abord, il faut se calmer la situation sur place et donner l'opportunité, l'occasion pour un dialogue direct.
Est-ce que le gel des colonies, des nouvelles colonies, peut être un geste d'Israël ?
Israël a fait déjà, il y a quelques années, en 2010,
aujourd'hui, en 2016,
ce geste. On a gelé les implantations et pendant 9 mois, Mahmoud Abbas, le même Mahmoud Abbas, a refusé de venir et négocier. Je pense qu'aujourd'hui, après ces mois et après ce qui s'est passé en Israël, partout en Israël, je pense qu'on ne peut pas poser des préalables à Israël. Il faut venir, il faut vouloir négocier directement sans poser des préalables. La gel des implantations, c'est un préalable.
Il y avait quand même des négociations, excusez-moi de vous pousser un petit peu vers des retranchements, mais quand même, il y avait par exemple la libération des prisonniers palestiniens qui étaient acquises et qu'Israël n'a pas opéré. Et donc il y a quand même, parce que vous laissez entendre que c'est juste les Palestiniens qui veulent pas et que vous êtes ouverts. Or, c'est quand même, pour danser le tango, il faut être deux.
Exactement. Et la deuxième partie, c'est les Palestiniens. D'abord, les prisonniers palestiniens, ce sont des terroristes qui ont tué beaucoup d'Israéliens, des femmes et des enfants. Ils sont emprisonnés pour commettre des crimes. Et l'attente d'Israël de faire un geste et de les libérer, je pense que c'est aujourd'hui, c'est une demande qui est complètement inacceptable. Et pour que la situation avance, pour que la paix avance, il faut venir et discuter. Oui, je suis d'accord, il faut deux pour tango, mais Netanyahou, il appelait Mahmoud Abbas de venir à la table de négociation. Malheureusement, Mahmoud Abbas a refusé. Et pourquoi il a refusé ? Parce qu'il y a 2 ans, après que Kerry était au Moyen-Orient, il a essayé d'avancer le processus de paix. Mahmoud Abbas était contre, il s'est opposé. Il a décidé d'aller vers la communauté, par la communauté internationale pour que celui-ci fasse pression sur Israël. Alors ça, c'est la position des Palestiniens aujourd'hui et il faut discuter directement. C'est ce que nous disons.
On attendra pour danser le tango. Revenons avec vous sur le traditionnel dîner du CRIF qui se déroulait hier soir à Paris. Il y a eu cette prise de parole du président du Conseil représentatif des institutions juives de France, Roger Kuckermann, qui a décrit ainsi la situation des juifs en France, une vie retranchée, des citoyens de deuxième zone, nos enfants dans les écoles publiques sont insultés ou battus. Manuel Valls est ensuite monté à la tribune. Il y a l'antisémitisme d'extrême droite et d'extrême gauche, a dit le Premier ministre de la France. Et puis, il y a l'antisionisme, c'est-à-dire tout simplement le synonyme de l'antisémitisme et de la haine d'Israël. Il y a 2 questions. Il y a la première question, la situation des juifs en France. Les enfants sont insultés et battus dans les écoles publiques. Roger Kuckermann disait on est obligé de les mettre dans le privé. Ça, c'est une réalité chiffrée.
D'abord, s'il a dit ça, il connaît la situation mieux que moi parce qu'il habite ici depuis toujours. Et s'il a dit ce qu'il a dit, je suis sûr qu'il a raison. Et la question est, et pourquoi la situation est devenue telle qu'elle est? Et je pense qu'aujourd'hui, le fait que la communauté juive, où il y a des personnes qui ont peur, qui ne se sont pas à l'aise, c'est vraiment inquiétant. Et je pense que personne, ni les juifs, ni des autres, doivent se sentir comme ça en France.
Le synonyme de l'antisémitisme et l'antisionisme, est-ce que là, Manuel Valls n'a pas commis un écart de langage ?
Non, je pense qu'il a tout à fait raison. On ne peut pas aujourd'hui faire la différence entre l'antisémite et l'antisioniste et ceux qui sont contre Israël. Parce que si on prend les organisations BDS qui organisent beaucoup d'événements contre Israël, ils ne font pas la différence entre les 3. Ce sont des organisations, des personnalités qui sont engagées et ont critiqué et protester et dénoncer l'État d'Israël, même si quand il s'agit d'un chanteur américain juif qui n'est pas israélien du tout, or quand il s'agit des produits cachers, pour eux, tous ces enjeux sont liés. Alors, on doit comprendre que ceux qui n'acceptent pas Israël, ils sont aussi antisémites, ils sont aussi contre contre le concept de zionisme.
Aliza Binnoun, ambassadeur d'Israël en France, je voudrais vous présenter l'invité de la deuxième partie. Tout de suite, à suivre dans une seconde, Jean-Loup Amsel pour la Grande Table, anthropologue, professeur à l'EHESS. Cette phrase du Premier ministre, vous Jean-Loup Amsel, c'est un amalgame?
Oui, parce que je pense qu'on peut tout à fait être antisioniste, en tout cas être opposé à la politique raciste de Benjamin Netanyahou, sans être antisémite. Enfin, les deux choses n'ont rien à voir. Mais je crois que derrière la déclaration de Manuel Valls, en fait, il y a la poursuite envisagée des gens dont parlait Madame l'ambassadrice, c'est-à-dire des militants BDS qui sont en faveur du boycott des produits israéliens en provenance des colonies de Cisjordanie. Alors, ce qu'il faut noter quand même, c'est que même en Israël, il y a des gens qui sont opposés, enfin qui sont en faveur du boycott des produits israéliens en provenance des colonies. Par exemple, l'historien pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, Shlomo Sand, est en faveur. Il appelle au boycott d'Israël. Et le gouvernement israélien a très peur de ce boycott parce qu'il y a le précédent sud-africain. Et rappelons que le boycott de l'Afrique du Sud a beaucoup fait pour la chute de l'apartheid et le départ du président de Klerk.
Je vous remercie, Jean-Louis Amsel.
D'abord, je dois protester. Je ne sais pas si j'ai bien compris parce que mon français n'est pas excellent. Je suis arrivé il y a 6 mois, mais est-ce que vous avez dit et la politique raciste?
Oui, absolument.
Alors, je veux vraiment et protester parce que je pense que décrire Israël ou décrire le gouvernement ou le premier ministre israélien étant qu'un premier ministre raciste et un pays raciste, c'est vraiment inacceptable. Israël est le seul et pays démocratique au Moyen-Orient et le seul pays démocratique qui combat et contre le terrorisme et contre les éléments extrêmes au Moyen-Orient. Alors, et décrire Netanyahou comme un raciste ou le gouvernement israélien qui était choisi par la plupart des Israéliens, un pays démocratique, étant que raciste, ça, c'est tout à fait inacceptable.
Je peux ajouter quelque chose, un mot?
Je propose à Caroline de maintenir cette discussion, de prolonger cette discussion peut-être dans la grande table dans un instant. Moi, je veux dire un petit mot de météo et refermer ce journal parce que j'en suis obligé. C'est l'heure.
Mais c'est l'heure de la dernière partie de la grande table qui n'est pas sur le sujet d'Israël,
non.
Ludovic.
Donc Jean-Loup Amsel, voilà, désolé pour ça. Je vous donne, je vous remercie, Madame l'ambassadeur d'Israël en France, d'avoir été l'invité de ce journal. Je suis obligé de donner aussi un petit mot de météo, ce qui est un peu étrange après cet échange. Le ciel est plus clément et plus ensoleillé qu'hier. On s'arrêtera là.